Chapitre 11. Calcul de l'amour-propre. Camilla laissait sa sœur pour accompagner Mrs. Burlington au lieu d'assemblée publique. Il ne lui restait plus d'autre moyen de voir Edgar, qui, depuis la rupture, avait cessé de venir chez Mrs. Burlington. Ils avaient déjà passé plus d'une semaine à s'observer, s'éprouver l'un l'autre pour s'assurer de leur cœur, de leur estime mutuelle. Et nulle espérance confirmée, nul doute éclairci. Cette soirée eut quelque chose d'un peu plus décisif. Le jeune West Wynne, animé par l'encouragement dont il se flattait et poussé par l'impatience de son père, vint à parler de la visite qu'il avait l'intention de faire à Sir Hugh. Et il s'exprima dans cette occasion avec un air si satisfait qu'elle ne put se méprendre sur les motifs secrets de ce voyage. Effrayée de ce qu'elle observait pour la première fois, elle prit un air grave et se détourna de lui, résolue de ne plus lui parler de toute la soirée. Mais la précaution vint trop tard. Ses premières honnêtetés avaient séduit le père et le fils, au point que le vieux West Wynne n'attribua ce dernier incident qu'à sa modestie, qui ne pouvait ajouter qu'à la vivacité de leurs sentiments mutuels. Camilla sentit alors son erreur. Elle fut non seulement étonnée, mais même affligée, de la persévérance du jeune West Wynne. Le caractère de ce jeune homme, quoique vif, n'avait rien de présomptueux. Il ne sortait point de la ligne des bienséances. Tant d'assiduité et d'empressement de sa part furent un motif pour Camilla de passer en revue toute sa conduite avec lui. Cet examen fut sévère. Sa conscience ne l'acquitta point du reproche de quelque légèreté, que ne justifiait point l'innocence même de ses intentions. Son imprudence avec Sir Sedley Clarendel revint à son esprit. Elle vit alors, sous le même aspect, la fausse espérance que son inattention avait laissé concevoir au West Wynne père et fils, et la crainte des mêmes suites troubla son imagination. West Wynne, la voyant profondément occupée de ses pensées, en conjectura qu'il était aimé. Edgar en conclut qu'il ne l'était plus. Tandis que ce dernier se disait en soupirant que le plus heureux des mortels était West Wynne, une scène nouvelle vint le surprendre et lui fit naître d'autres soupçons. Il vit Camilla non seulement se détourner de son rival, mais encore donner, en apparence, toute son attention au Lord Valhurst, qui ne lui parlait que de ses charmes. En agissant ainsi, Camilla ne voulait que faire sentir au jeune West Wynne sa méprise. Il s'en fallait de peu qu'elle n'eût Lord Varus en aversion. Il avait essayé de se justifier de l'indignité de sa conduite à la maison du bain. Mais, quoiqu'il lui fût fort indifférent de savoir s'il était innocent ou coupable, ses compliments perpétuels et surtout la tendresse de ses regards la fatiguaient à périr. Il ne cessait d'être à son côté quand il n'était pas auprès de Mrs. Burlington. Et cependant, jamais elle ne s'était crue si bien en sûreté que lorsqu'elle profitait de ses empressements pour se défaire de ceux du jeune West Wynne. Mais pendant qu'elle se reposait ainsi sur la droiture de ses propres intentions, elle ne songeait pas au mal que produisaient ses apparences sur les observateurs. Le plaisir d'être auprès d'elle et celui de voir son encens reçu de la meilleure grâce donnèrent un nouveau degré de fadeur aux adulations du Lord Valhurst. Edgar jugea, d'après ses apparences, que Lord Valhurst n'aurait pas eu tant de présomption si Camilla ne l'eût pas encouragé. Ainsi, Camilla n'était désormais autre chose qu'une coquette achevée. Blessé jusqu'au fond de l'âme, à peine savait-il s'il devait continuer son épreuve. « Quoi qu'il en soit, dit-il au docteur Marchmont, tout est fini pour moi. Je ne chercherai plus à renouer un attachement sujet à tant de caprices et de troubles. » Que deviendrait mon repos avec une compagne si légère? Un cœur qui veut tout captiver, une épouse dissipée? Non, je ne reste plus ici que pour savoir comment elle a rendu compte à ses parents de notre rupture. » Le docteur Marchmont se tut. Ils sortirent ensemble, laissant Camilla persuadée qu'Edgar ne paraissait si parfaitement indifférent à sa conduite avec Lord Valhurst que parce qu'elle avait cessé, pendant une soirée, de l'alarmer sur son jeune rival. Le lendemain matin, Melmont était de retour à Southampton et plongé dans une profonde mélancolie. Il avait trouvé les deux frères ensemble et son air de candeur, la simplicité de sa déclaration, la franchise avec laquelle il exposa l'état de sa fortune, sa situation et le titre de frère de Mrs. Burlington, le firent accueillir avec autant de politesse que de cordialité. Il lui fut aisé de voir que l'oncle et le père, tout en lui demandant le temps de la réflexion et des informations, étaient disposés en sa faveur. M. Tyrold attribua sa demande à l'échec qu'il venait de recevoir dans sa fortune, mais il se flattait si peu de l'espérance qu'un homme aimable et riche tout à la fois voulût se proposer pour Eugénia, que lorsqu'il vit un jeune homme bien né, sensible, doux et modeste, il ne crut pas que son titre même de père l'autorisât à le refuser. Cependant, il lui dit qu'il ne terminerait rien sans avoir consulté sa femme, le priant de ne voir jusque-là dans Eugénia qu'une connaissance ordinaire. Melmont ne rapporta point à Southampton l'air joyeux et content d'un nouveau marié. L'ordre qu'il exécuta le plus volontiers fut celui de ne point faire de visite particulière à Eugénia, car, désirant sincèrement de pouvoir vaincre sa répugnance pour celle qu'il se proposait d'épouser, il sentit que ce serait pour lui la chose impossible tant qu'il la comparerait avec Indiana. Eugénia reçut avec transport la lettre de son père et de son oncle, et pour leur témoigner sa reconnaissance et sa soumission, elle résolut de ne faire part à personne du mariage qui se préparait, de suspendre ses visites chez Mrs. Burlington et de ne voir Melmont qu'en public. Indiana, blessée de la démarche que Melmont avait faite à Clèves, se disposait à l'accabler de tout le poids de ses dédains. Mais Melmont paraissait peu. Il se conformait aux intentions de M. Tyrold en ne se présentant point chez Eugénia. Il vivait dans une retraite mélancolique et n'avait d'autre adoucissement que ses livres. Edgar n'attendait que l'occasion et le courage de faire à Camilla ses derniers adieux. Mais si le hasard lui présentait quelques instants favorables à ses desseins, ses pieds refusaient de le servir, sa langue restait embarrassée, son cœur, qui luttait contre sa raison, lui disait tout bas « Oh non, pas ce soir, encore un jour, avant de me séparer de Camilla pour jamais !» Mais bientôt, Camilla cessa tout à coup de paraître. Edgar la cherchait en vain aux lieux publics, au spectacle, au bal, dans les cercles. Son vieil adorateur était aussi disparu. Westwin et son fils la cherchaient aussi, selon leur coutume, désolés tous les deux, mais le vieux surtout, de ne la plus rencontrer.